C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 28 mai et aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année. Et pour célébrer ce pot de départ, nous allons parler d'une des boissons les plus consommées en France, la bière.
Une boisson qui est évidemment à consommer avec modération et dont on va s'intéresser à la fabrication.
Et pour tout savoir sur ce sujet, nous serons avec Jérôme Avenel. Il est brasseur, créateur de l'établissement des Deux Terres installé en Seine-Marie. Mais aussi à Caen.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence cette dernière news avec l'astronaute française Sophie Adeno qui rejoindra la Station Spatiale Internationale en 2026.
Oui, c'est ce que vient d'annoncer mercredi l'Agence Spatiale Européenne. Pour le moment, on ne connaît pas en détail le contenu de sa mission, mais on sait qu'elle durera 6 mois et que l'astronaute y mènera plus de 200 expériences scientifiques. Sophie Adeno deviendra ainsi la deuxième femme astronaute française succédant à Claudie Aigneré, dont le dernier voyage date de 2001.
Et en attendant de s'envoler, Sophie Adeno poursuit sa préparation.
Après un an à Cologne, c'est un an à Houston qui attend l'astronaute et ses camarades de la promotion 2022. Au programme des formations intenses pour acquérir les qualifications des plus basiques aux plus élaborées, Sophie Adeno est d'ailleurs en train de suivre des cours théoriques sur les sorties extra-véhiculaires, c'est-à-dire hors de la station spatiale, avant de s'entraîner sur des cas pratiques. Ces sorties devraient d'ailleurs faire partie de ses missions. En mars dernier, une hormone permettait de limiter les risques d'exposition au VIH. Désormais, un nouveau vaccin serait tout aussi efficace.
Oui, c'est ce qu'a montré une équipe de chercheurs de la Duke University aux États-Unis dans leurs travaux publiés dans la revue Cell. Évidemment, les méthodes ne sont pas les mêmes. Cette hormone, elle participait à réduire les surcharges de graisse. Cette fois-ci, il a été démontré que ce vaccin est parvenu à susciter des anticorps. Dans le cadre d'essais cliniques de phase 1, des anticorps dits à large spectre avec un grand pouvoir neutralisant.
Et pourquoi on peut dire que ce vaccin est efficace?
Parce que c'est le seul à pouvoir venir à bout de plusieurs souches du virus, et c'est donc une version améliorée que l'on a essayée. Résultat, la réponse immunitaire se fait sentir chez 95% des patients testés. Pour bien comprendre, ce sont des cellules, les lymphocytes B mémoire, situés dans les ganglions et la rate, qui conservent le souvenir de l'agent infectieux, et c'est donc ce qui entraîne cette production d'anticorps à large spectre. Pour le moment, on ne peut pas dire que ce vaccin puisse anéantir le VIH, loin de là, ce serait trop facile, mais tout de même, cette avancée est une première étape importante dans l'élaboration d'un remède viable contre la propagation du virus du sida. En 2022, c'est encore 39 millions de personnes qui vivent avec dans le monde. C'est une découverte très surprenante. Un homme qui voulait rénover sa cave tombe sur une centaine d'os de mammouth.
Et cela se passe à Godelsburg en Autriche. Andreas Pernerstorfer, un vigneron, décide de faire des travaux de rénovation. Des travaux qui vont lui permettre de déterrer des ossements vieux de 30 000 à 40 000 ans. Et de son côté, l'Institut archéologique autrichien de l'Académie des sciences, qui mène désormais les fouilles dans la cave, a même qualifié cette découverte de sensationnelle.
Et est-ce qu'on sait si ces ossements appartiennent aux mêmes mammouths alors ?
Alors, a priori non, il s'agirait de trois mammouths différents. Selon les chercheurs, ces derniers sont peut-être morts en même temps sur les lieux de la découverte après avoir été chassés par des humains qui leur auraient tendu un piège. Et pour en savoir plus sur ces ossements, les scientifiques ont prévu de les déterrer et de les examiner avant de les envoyer au musée d'histoire naturelle de Vienne afin d'y être restaurés. C'est un constat alarmant, nos testicules ainsi que ceux des chiens contiennent des microplastiques, beaucoup de microplastiques.
Oui, c'est une équipe de chercheurs de l'université du Nouveau-Mexique aux États-Unis qui a analysé 23 testicules humains et 47 testicules de chiens, et le résultat est sans appel, tous contenaient des microplastiques. Le plus important, c'est leur quantité, trois fois plus élevée que la normale, qui est de 329 microgrammes. Si les testicules des chiens contiennent essentiellement du polyéthylène, le matériau qui sert à la fabrication de sacs et de bouteilles en plastique, les nôtres montrent des traces de PVC en quantité importante.
Mais quelles sont les conséquences de cette présence abondante de plastique?
Le premier risque, c'est celui de l'infertilité, des microplastiques qui ont un impact direct sur notre capacité à produire des spermatozoïdes. C'est d'ailleurs pour cela que les chercheurs ont analysé la concentration de spermatozoïdes chez les chiens, opération impossible chez l'humain. Des études qui pourraient prochainement être menées chez la femme, des microplastiques ont récemment été retrouvés dans du placenta et du lait maternel. Et on termine avec une innovation scientifique étonnante. Des chercheurs développent un traitement qui fait repousser les dents.
Oui, une équipe de l'hôpital Kitano à Osaka, au Japon, est en train de développer un médicament qui permet une repousse naturelle. En fait, ils ont identifié le gène qui bloque la repousse des dents, c'est la protéine USAG1. Puis ils ont créé un remède qui permettrait donc de la désactiver. Mais pour le moment, les tests n'ont été réalisés que sur des souris. Ceux sur l'homme sont prévus pour septembre prochain.
Et en priorité, le but est de soigner l'insuffisance dentaire congénitale.
Oui, c'est un problème qui touche 1% de la population population mondiale. Cela se traduit par l'absence à la naissance d'une ou de plusieurs dents définitives, et parfois cette insuffisance peut se révéler handicapante, que ce soit pour manger, mais aussi pour s'exprimer correctement. Et donc, tu l'as dit, le médicament va en priorité viser les patients atteints de cette maladie, même si à terme, les scientifiques comptent bien faire repousser les dents de ceux qui les ont perdues à cause de caries ou de blessures.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Alors, on avait des invités qui devaient venir, je ne sais pas s'ils sont encore arrivés. Oui, les voilà, on va les laisser rentrer tranquillement. Donc, on vous en parlait en introduction aujourd'hui, c'est le dernier C'est pas faux de l'année. Et en guise de pot de départ, nous vous proposons aujourd'hui de parler de bière.
Et alors évidemment, on peut très bien prendre un apéritif sans alcool, mais la bière reste une boisson très consommée en France, environ 33 litres par an et par habitant.
Alors aujourd'hui, focus donc sur ce breuvage. Comment est-il fabriqué? Comment fonctionne la fermentation? Pourquoi existe-t-il différents types de bières? Pour répondre, nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Avenel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes brasseur fondateur des Deux Terres, un établissement basé à Saint-Romain-du-Colbeau en Seine-Maritime, mais aussi une antenne à Caen qui a été ouverte il y a quelques mois. Et donc, alors, au début, on pensait vous avoir uniquement vous, mais vous êtes venu accompagné. Je vous laisse du coup vous présenter.
Michael Picard, le brasseur assistant.
Bah, merci du coup à tous les deux d'être venus. C'est vrai que dans un contexte peut-être un peu plus speed, mais en tout cas, merci d'être là. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux sur les ingrédients qui
Alors, sur les bières classiques, essentiellement bon, l'eau, évidemment, de l'orge. Donc, on parle souvent de bière dans la bière de houblon, parce qu'on a l'obligation, pour appeler ça une bière, de mettre du houblon, depuis le 12e siècle à peu près. Donc, ça fait quand même un peu de temps. Mais le principal ingrédient, en plus de l'eau, ça reste la céréale. Donc, soit orge, blé, avoine, seigle.
Et l'un des ingrédients majeurs, donc, c'est le houblon, comme vous l'avez dit. Quel est son rôle dans la recette de la bière?
Alors, le houblon va servir à amériser la bière et du coup à l'aromatiser également. Donc, deux rôles, donc l'amérisation et l'aromatique.
Donc, ça veut dire globalement, le houblon, c'est vraiment l'élément clé sur le goût que va avoir la bière quand on...
L'orge aussi sa part de son rôle principal. Donc l'orge va nous donner des notes maltées. Donc sur des bières classiques, on va aller plutôt chercher le malt et des houblons plutôt neutres. Sur des bières plus spécifiques comme les IPA, double IPA, donc certaines bières un peu plus différentes, on va aller chercher plutôt le houblon. Donc du coup, l'aromatique du houblon, donc plein de notes différentes selon les houblons qu'on utilise, soit des houblons français, normands, soit des houblons américains, néo-zélandais éventuellement, pour aller nous donner des saveurs de fruits tropicaux, litchi.
Et donc vous l'avez dit,
avoir. Vous. Si j'en oublie, Michael, aide-moi.
Donc vous l'avez dit, le houblon, c'est un élément qui fait qu'on peut appeler une bière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bière sans houblon, ça n'existe pas.
Si ça existe, mais ça ne va pas s'appeler bière, ça va s'appeler une cervoise, ça va s'appeler une grütz. On en trouve des très bonnes au Québec, Norvège, des bières vraiment spécifiques, donc plus sur le malt, aromatisées différemment, donc selon ce qu'on a un peu sous la main, des champignons, des feuilles de sapin, des myrtes, des lauriers, enfin tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut trouver autour de nous.
Vous avez parlé de la cervoise, est-ce que les bières de l'époque antique étaient fabriquées sans houblon du coup?
Oui, tout à fait.
Un peu tout ce qu'on trouvait.
Ouais, j'imagine qu'il devait y en avoir avec du houblon, mais sans savoir. En fait, le houblon a des vertus antiseptiques, donc du coup, la bière se conserve mieux avec le houblon. Donc c'est pour ça qu'une petite nonne du XIIe siècle a découvert et a institutionnalisé le houblon dans la bière.
Et une fois qu'on a réuni tous ces ingrédients, par quoi est-ce qu'on commence pour fabriquer la bière tout simplement?
Par un empâtage, donc une espèce de gros thé, une infusion d'eau chaude avec les céréales, orge, blé, avoine, seigle, comme je disais tout à l'heure.
Et les étapes suivantes, enfin, quelles sont toutes les étapes qui vont servir au processus de fabrication?
Donc au début, il y a l'empâtage, donc pour récupérer les sucres qu'il y a dans le malt. Après, on fait une filtration, donc on récupère ce qu'on appelle le mou, donc le liquide sucré, qu'on va mettre dans une cuve d'ébullition. Donc là, on va porter à ébullition, on va rajouter après les ingrédients supplémentaires, le houblon, des fruits, des épices. Une fois l'ébullition faite, on va faire un refroidissement le plus rapide possible pour envoyer ça dans un fermenteur et envoyer la levure pour qu'il y ait une fermentation alcoolique.
Est-ce que d'ailleurs ce procédé il a toujours été le même pour la fabrication de la bière, suivant cet ordre-là précisément, ou c'est quelque chose qui a changé en fonction des siècles et des méthodes ?
Non, je ne pense pas que ça ait changé. Ce sont des étapes assez naturelles en fait. Donc voilà, il faut, pour avoir le mou, donc le futur jus de bière, il faut qu'on fasse une infusion. Il faut bien faire infuser de toute façon les orges. Donc de toute façon, ça ne peut passer que par là.
Et c'est même peut-être aussi des procédés qui ressemblent à la fabrication d'autres alcools. Est-ce que c'est typique ou est-ce que c'est quand même propre à la bière ?
Non,
c'est typique à beaucoup d'alcool.
C'est typique, ouais, c'est ça.
Tous les alcools distillés viennent de ce process-là. Le whisky, c'est de la bière distillée, en gros.
Et vous nous en avez parlé.
Sans houblon.
Sans houblon, c'est sans ça. Houblon. Et donc cette nonne qui a rajouté le houblon au XIIe siècle, à partir de quand est-ce qu'on a vraiment commencé à fabriquer et à consommer de la bière telle qu'on la connaît aujourd'hui ?
J'y étais pas. la bière c'est vieux, c'est entre 5 et 8 000 ans, c'est un peu comme le vin, donc ça a toujours plus ou moins existé. Après voilà, avec du houblon je dirais à partir du 12e siècle.
Puis tout le monde faisait sa bière chez soi à
exactement
la base.
Ouais. Donc l'eau n'étant pas potable, on buvait soit du vin, soit de la bière, soit plein d'autres choses, tout ce qu'on trouvait un petit peu autour de chez nous. J'imagine à l'époque.
Et pour rester sur la fabrication, est-ce qu'il y a un matériel qui est nécessaire au respect de toutes ces étapes ? Est-ce qu'on peut, enfin, on imagine qu'il y a besoin de certaines peut-être machines en particulier, ou en tout cas des cuves. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on utilise ?
Essentiellement des cuves inox, déjà, pour pas donner de goût, parce que le métal donne du goût. Et qui se nettoie très facilement. Donc cuves inox et des fermenteurs. C'est à peu près, après il y a du détail entre les lignes, mais c'est à peu près tout ce dont on a besoin.
Et ça marche comment, ces fermenteurs, comment est-ce que ça fonctionne ?
C'est une grosse cuve avec une soupape de sécurité qui laisse passer le CO2. Donc l'action des levures sur le sucre qu'on a extrait des orges va faire que ça dégage du CO2. Donc les sucres vont se transformer tout doucement en alcool, pour dégager une bonne dose de CO2. Donc la soupape de sécurité va pouvoir laisser passer le CO2 dans l'air. Et voilà, la première fermentation, donc la tumultueuse, pendant 3-4 jours, les levures vont avoir une action assez drastique sur la bière. Donc ça va se transformer en alcool assez vite. Et on a une deuxième fermentation, ce qu'on appelle la fermentation secondaire ou de garde, pendant 15 jours à peu près, pour nous permettre d'avoir la densité de sucre qu'on veut dans la densité et la quantité d'alcool qu'on veut dans notre bière.
Et donc cette étape de la fermentation est une étape clé où l'alcool apparaît. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène exactement ?
Donc au moment de l'empâtage, on met l'eau à une certaine température et on concasse le malt pour récupérer ce qu'on appelle l'amidon qui est dans le malt. Et à une certaine température, les enzymes vont couper l'amidon en sucre simple. Donc à ce moment-là, on récupère le maximum de sucre simple. Et une fois en fermenteur, on met la levure. C'est à ce moment-là que la levure va manger tous les sucres simples et créer de l'éthanol et du CO2. C'est tout.
Et c'est une étape qui dure combien de temps ? Est-ce que c'est une durée fixe aussi ou ça peut varier ?
C'est assez fixe.
Ouais, en général 3 semaines, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Sauf certains types de levures qui sont très très gourmandes.
Ah, oui, tout à fait.
Les levures norvégiennes. Qui arrive à faire ça en 3-4 jours, mais sinon, en général, c'est une...
Sur de la haute fermentation, on est sur ces délais-là.
Ça va dépendre aussi du type de levure qui est utilisée, finalement.
C'est ça, oui.
On a trois types de fermentation. Les fermentations de haute fermentation, ce qu'on utilise quasiment tous. Les basses fermentations pour les lagers. Donc là, du coup, on a des températures beaucoup plus basses et sur des durées beaucoup plus longues.
Quelques
qui vont durer
mois,
jusqu'à 2 mois, 3 mois. Donc là, on a enfin une fermentation spontanée avec des levures sauvages. Donc on laisse les choses se faire. Et là, Inch'Allah.
Et les différentes fermentations, elles influent elles-mêmes sur le goût aussi de la bière ou même, enfin j'imagine que les noms des bières sont aussi en fonction de la fermentation.
Basse fermentation, on est sur des lagers, donc sur des bières sur des degrés d'alcool un peu moins hauts. Haute fermentation, ça va nous permettre de faire... un peu tout ce qu'on veut, quoi. C'est pour ça qu'elles sont principalement utilisées. Et sur la fermentation spontanée, sauvage, on va avoir des bières un peu plus acides. Donc là, du coup, on va être sur des bières très spécifiques, comme les gueuses, les lambics, des choses comme ça.
Et justement, comment est-ce qu'on va juger le bon taux d'alcool dans une bière et comment est-ce qu'on va le réguler, entre guillemets, le mesurer?
Le taux d'alcool dans la bière, en fait, dépend du nombre,
de la quantité de malt,
de la quantité de sucre qu'on va obtenir à l'issue de notre ébullition. Donc en fait, on extrait pendant la période d'empattage du sucre qui provient des orges, et donc à la suite de ces tous les procédés, on va avoir une densité de sucre par rapport à l'eau. Donc, une fois les fermentations sont finies, donc on le mesure, ce taux de sucre. Une fois que la fermentation est terminée, on remesure. Donc il y a un delta, et c'est ce delta-là dont on va servir pour calculer le taux de sucre qu'on veut.
Est-ce que ces différents types de fermentation, c'est ça qui va différencier une bière blonde d'une brune, d'une rousse par exemple, ou c'est non. Un autre procédé?
Non, en fait...
Ça c'est les ingrédients, c'est le malt en général, qui fait qu'on a une blonde, une ambrée, une stout ou autre.
Et donc qu'est-ce qui fait qu'un malt va donner une bière blonde ou une bière brune? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
De base, le malt c'est de l'orge qu'on va malter. Donc on a de l'orge qu'on malte, mais plus la température de maltage va être importante... plus il va avoir une coloration importante, ce qui va faire que la couleur ou le goût de la bière va changer.
Le maltage de l'orge, c'est le procédé de déshumidifier la céréale et de le cuire. Donc il y a différentes étapes de cuisson selon le type de malt qu'on veut utiliser. Donc plus il est peu cuit, plus il va être blond. Donc plus on va utiliser... Donc c'est notre orge de base. Parce que plus il est cuit, plus on va perdre ses capacités en sucre aussi. Donc ça va colorer la bière, ça va lui donner un goût un peu caramel, un peu toasté. Mais par contre, on va perdre les capacités en récupération de sucre.
Et on parle aussi parfois de bière double ou triple, ça correspond à quoi?
Taux d'alcool.
C'est le taux?
C'est le taux d'alcool. C'est une catégorisation du taux d'alcool. Une simple bière fera 5 degrés. Une double va faire entre 5 et 7 degrés, une triple va faire entre 7 et 10 degrés, une quadruple va faire un peu plus. Et puis...
On continue de parler de fabrication de la bière, mais avant on va faire une pause musicale et écouter Intentionnel de Simone Ringer et de Mathilde Fernandez. À tout de suite dans C'est pas faux.
Intentionnel. Intentionnel. Trop près de ma bouche, tu as posé tes lèvres. Moi j'ai cru que c'était intentionnel. Mais ne sois pas farouche, je ne veux pas le ciel. Je cherche juste l'amour passionnel.
Moi qui pensais faire mouche, c'est tout bien au contraire. Encore un coup d'amour imaginaire. Et je reste sur la touche.
Et si la nuit je doute, serais-je devenue panthère à trop toucher du doigt l'émotionnel? Et la nuit sous la douche, une grande montée de fièvre. Oh fais-moi, fais-le, moi que j'ai
intentionnel. Tu m'as... voir des images. Moi je m'imagine. Et moi j'ai cru que c'était intentionnel. Tu me vois des images. Moi je m'imagine déjà demain avec toi.
C'était Intentionnel de Simone Ringer et Mathilde Fernandez. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme Avenel et Mickaël Picard, tous les deux brasseurs, pour parler de la fabrication de la bière.
Alors, on parlait juste avant de la fermentation, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, dans la fabrication de la bière, va créer des goûts différents chacun entre elles? Comment on aromatise une bière?
Alors, l'aromatisation principale vient du houblon. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment le houblon, donc avec... Si on veut faire ressortir vraiment les houblons, on va travailler avec du malt plutôt neutre pour justement faire ressortir au maximum les notes de houblon, donc qui sont des notes plus fraîches. Donc c'est une plante déjà. C'est plus une céréale, c'est une plante. Donc vraiment le travail de l'aromatique se fait à la base sur le houblon. Après on peut rajouter ce qu'on veut dans une bière. On peut se faire plaisir.
Oui, sur les bières qui sont fruitées par exemple, comment est-ce qu'on ajoute cet arôme?
Deux façons. Soit à l'ébullition, donc ouais. Sur la dernière étape de fabrication avant la mise en fermenteur, soit à froid directement, donc dans la période de garde de la bière, où là on va injecter à froid une purée de fruits, des plantes, enfin, tout ce qu'on veut.
Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour créer des nouvelles bières? Est-ce qu'il existe par exemple des réglementations en matière de recettes, des choses qu'on ne peut pas faire?
Non,
il n'y a pas vraiment de limite.
Non.
Sauf pour les bières aux fruits, on ne peut pas dépasser 10%. Sinon, ça s'appelle plus une bière, ça s'appelle une boisson à base de bière. Oui. Mais sinon, on peut tout mettre dans la bière si on veut.
10% de fruits, hein.
Ouais, de fruits ou...
Oui, ce qui représente la même chose sur les bières alcoolisées. Sinon, après, ça s'appelle un prémix, ça s'appelle plus une bière. Enfin, voilà, il y a plein de... Là, il n'y a que ces régulations. Là. Après, sur les idées qu'on peut avoir, on peut aller au bout. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont...
Ouais.
Goûte des trucs.
Quel est le temps qu'il y a entre la fin de la fabrication et la mise en bouteille d'une bière?
En gros, entre 4 et 5 semaines.
Parce qu'il y a besoin de... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de stocker autant de temps? C'est pour que le goût s'affirme
Fermentation primaire. Déjà, obligatoirement, il y a deux phases de fermentation. Fermentation primaire et secondaire. Donc, première fermentation, où là, on a une grosse action des levures, et une fermentation de garde. Donc là où les levures vont continuer à faire leur boulot, mais tout doucement, tranquillement, jusqu'à arriver au résultat final. Et ensuite, on met en bouteille. Et pour avoir de la pétillance à la bière, donc il faut que ça dégage du gaz carbonique naturellement. Donc la bière étant capsulée hermétique, le gaz carbonique qui va se fabriquer pendant la refermentation en bouteille, donc va donner la pétillance, et ça réclame à peu près 15 jours, 3 semaines minimum dans la bouteille, bien capsulée. Donc quand on additionne l'ensemble, ça fait nos 5 semaines.
Et concernant les bouteilles, est-ce qu'il existe des formats qui permettent une meilleure conservation, pardon, une fois qu'elle est mise en commerce, ou même autre chose que des bouteilles d'ailleurs, qui peuvent mieux conserver le goût de la bière?
Pas de format. Plutôt la couleur. En fait, on utilise le brun pour une bonne conservation à la bière. Donc, toutes les bières sont sur des formats bruns pour avoir un maximum de conservation sur la bière. Sinon, la canette, fonctionne assez bien aussi en termes de conservation, parce que là, du coup, le houblon est totalement à l'abri de la lumière, donc va conserver ses arômes le plus longtemps possible. Donc une bonne canette, ça peut être très bien.
Et d'ailleurs, combien de temps est-ce qu'on peut conserver une bière, que ce soit pour garder son goût ou tout simplement pour conserver sa comestibilité ?
Il n'y a pas de...
Tout dépend aussi du type de bière.
Dépend du type de bière.
Plus elle va être houblonnée, moins on la gardera longtemps. Parce qu'on va perdre les arômes du houblon et la bière sera moins bonne.
Et à mon sens, mais ça peut se discuter, une bière blonde légère va moins bien se conserver qu'une bière triple, donc avec un peu plus de corps et un peu plus de sucre de base, va plutôt s'améliorer, s'arrondir, un peu comme le vin.
Parce que quand on voit des dates de péremption sur des bouteilles de verre, ça concerne vraiment plus une perte de goût ou vraiment une absence de comestibilité. Est-ce que finalement, il arrive un moment où une bière périmée peut être dangereuse de la consommation ?
Non, il n'y a aucun danger sur la consommation.
Ça reste une loi plus qu'autre chose.
Ouais, tout à fait. C'est une prescription.
Oui, c'est ça, c'est obligatoire. Ouais, sur les... on différencie aussi souvent la bière artisanale d'une bière qu'on pourrait peut-être plus qualifier d'industrielle. Qu'est-ce qui les distingue ? C'est quoi concrètement une bière artisanale ?
C'est une bière qu'on a fait de notre petite main.
Les ingrédients aussi. Beaucoup de bières industrielles, c'est de l'extrait de houblon, c'est de la...
Du sucre.
Du sucre rajouté,
de betterave,
du sirop.
Pas cher. Voilà. Donc extrait, vous regardez, hein, si vous avez deux minutes, vous regardez une bonne Henken, une bonne Henken, une 16, une Krupp, c'est pour dire toutes les marques possibles et imaginables.
Regardez la notice, voilà. Sirop de maïs,
et donc, extrait. Ouais, extrait. On n'a que du sirop ou de l'extrait. Donc là, nous, d'où la différence de prix aussi, hein, pour défendre la corporation, on travaille avec des vrais ingrédients, on met assez peu de sucre en général, peu de sucre de betterave. Donc voilà, nos taux alcooliques sont faits avec des vrais ingrédients, avec des vraies céréales, et pas avec du sucre rajouté.
Et donc justement, est-ce que certaines marques vont rajouter comme ça des conservateurs ou des colorants, voire des choses qui ne seraient pas forcément indispensables à une bonne bière, mais quand même qu'elles rajoutent
Ah, certaines marques le font, oui, bien sûr. Toutes les Crick cerises, des choses comme ça.
Prenez certaines bières ambrées, c'est colorant caramel, sinon la bière, elle est blonde de base.
Oui, c'est pour accentuer... et vous parliez aussi des criques, elles sont peut-être pas aussi naturellement rouges qu'on peut l'avoir dans le commerce.
En fonction des marques, vous regardez, c'est colorant, extrait de cerise, d'autres c'est de la vraie cerise. Mais...
Oui, nous on fait une bière à la framboise, ce sont des vraies framboises, nous on fait une vraie purée de framboise qu'on fait nous-mêmes. Et donc là, on envoie de la vraie framboise. Donc du coup, sur 500 litres, on est sur 25 kilos, un truc comme ça.
Une trentaine de kilos.
Je dirais 25 kilos. Il y a 25 kilos de framboises. D'où le prix de 25 kilos de framboises qu'on rajoute en plus, ce qui n'est pas donné. Enfin, ouais, je justifie un peu nos prix de vente.
Et vous, justement, dans votre microbrasserie, vous étiez en train de le dire, vous fabriquez votre bière artisanale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle est bonne. Le boulard.
Déjà, est-ce qu'il y en a une seule ou est-ce que vous faites plusieurs types différents ?
Non, on fait plein de bières différentes. Oui. Donc, bien sûr, nos permanentes et classiques, obligatoires, blondes, ambrées, triples, IPA.
Est-ce que les gens demandent le plus ?
Ouais, tout à fait. Et après, on fait plein de bières éphémères, des stouts. On fait une stout au calva, on fait une stout à la bénédictine, on fait une triple blanche à la framboise, on fait une pelle ale hibiscus poivre de Timut. Enfin, voilà, plein de bières. On fait des double IPA, des
naipa.
IPA. Mais là, il y a plein de termes, effectivement. On aime bien se faire plaisir, les brasseurs, à donner plein de termes.
Et vous tenez donc une micro-brasserie. Est-ce que les moyens, ça va être quoi la différence avec une brasserie déjà ? Et est-ce que les moyens de fabrication sont les mêmes ? Est-ce que ça va avoir une incidence aussi sur la production de la bière ?
Le matériel, pour moi, c'est le même. C'est juste que micro-brasserie et industrielle, c'est le volume.
C'est le volume,
c'est total. C'est le volume qui est énorme.
Oui, donc c'est plus une histoire de taille qu'une histoire de contenu, quoi.
Et après, nous, dans notre microbrasserie, je parle vraiment de la nôtre, hein, on est vraiment en tout manuel. Donc on fait nos mélanges à la main, on injecte notre orge à la main directement dans le boiler, dans la cuve d'empattage. Et on brasse notre orge manuellement au fourquet.
Et au-delà de faire votre propre bière, vous proposez aussi des ateliers de brassage, donc ouverts au public, hein, j'imagine. Comment ça se passe ?
Alors, un atelier de brassage, vous venez, vous choisissez votre recette et vous faites votre bière de A à Z jusqu'à la mise en fermenteur. Donc voilà, toute la première partie de la bière, en attendant les périodes qui sont obligatoires. Donc ça dure à peu près 4 heures et demie, avec une petite dégustation, et voilà, vous fabriquez votre bière de A à Z. Du concassage à la mise en fermenteur.
Est-ce que ça veut dire donc que tout le monde peut faire sa propre bière, ou il y a, je sais pas, un âge limite ou un accompagnement qui va être fait pour les publics un peu plus jeunes ?
Je dirais que dans l'idée, à la mise en fermenteur, la bière n'est pas alcoolisée, elle est juste sucrée, donc c'est juste un jus sucré, donc tout le monde peut faire sa bière.
Eh ben, merci beaucoup Jérôme Avenel et Mickaël Picard d'être venus à notre micro. On rappelle, donc, vous êtes tous les brasseurs fondateurs des Deux Terres, un établissement basé à Saint-Romain-du-Colbeau en Seine-Maritime, mais vous avez aussi ouvert une antenne à Caen il y a quelques mois. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée merci. À vous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le dôme, une phrase que j'ai souvent prononcée d'ailleurs cette année, et peut-être que vous vous êtes demandé, c'est quoi le dôme ? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous ce samedi à 14h pour une visite dans les coulisses de ce lieu sur la presqu'île consacrée à la médiation scientifique. Pendant 2 heures, des membres de l'équipe vous font découvrir les activités et les équipements du lieu. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et puis, comme d'habitude, votre recommandation documentaire zoom cette semaine sur le site Maya de Nartun au Guatemala. Un lieu qui n'est certes pas aussi connu que les célèbres Tikal ou Chichen Itza, mais qui vaut quand même le détour, l'occasion de comprendre ce qui a poussé les Mayas à établir des cités de cette envergure. Un documentaire qui met en particulier en avant une nouvelle technologie de détection des ruines à travers la canopée. Nartun, le royaume Maya révélé, c'est ce jeudi à 21h sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui, mais aussi pour cette année. Et avant de se dire définitivement au revoir, forcément Axel, on avait un petit mot à se dire avant de se quitter.
Ah ouais, avant de nous quitter, prenons un moment. Prenons un moment pour saluer cette voix mémorable, immédiatement reconnaissable, qui vous a accompagné pendant deux ans durant lesquels il vous a parlé de sujets en tout genre,
je suis mort.
Aussi passionnants que délurés, du Big Bang aux capacités cognitives des céphalopodes, en passant même par le mystère d'une raie qui a fait un bébé toute seule. Du 2 ans de passion et d'acharnement même pour ce petit gars de Ciel Guillaume, passionné de vélo, de Benelux et de panneaux d'entrée de ville secondaire dont tout le monde se fout. 2 ans, c'est 62 émissions, 265 news présentées ou encore 8357 recommandations du Dôme. 2 ans pendant lesquels on aura avec toi découvert plein de choses, rencontré pas mal de monde, sauf le fils du cousin de ton père. Merci Simon, merci pour tout et bon vent.
Merci.
Quel hommage.
Bravo. Merci Axel. Oui, en ce qui me concerne, c'était la dernière fois que vous m'entendez à la présentation de C'est pas faux après 2 belles années au règne de cette émission et plus de 60 numéros animés. Merci à tous les intervenants qui sont venus à notre micro et merci bien sûr à toutes celles et ceux qui permettent la réalisation de ce programme. Évidemment, Anaël, Emmanuel et Lucas qui sont souvent à la technique. Et bien sûr, toi, Axel, qui va quitter la radio à la fin de la semaine. Et si j'ai un seul conseil à te donner, évidemment, c'est note tes pages. Ça t'évitera de t'emmêler les pinceaux, même si ça nous offre quelques fous rires. Je voulais également saluer Rémi, avec qui j'ai pu animer cette émission l'an dernier. Et je vous dis donc pas à l'année prochaine, même si je reste encore sur Radio Phoenix quelques semaines pour animer d'autres émissions cet été. Et enfin, je souhaite bonne chance aux futurs animateurs ou animatrices de C'est pas faux. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous pour animer cette émission.
Et on vous le souhaite, et dans quelques instants, rendez-vous donc avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.
Au revoir.